franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre. Et bonjour à tous. C'est une question qu'on pose dès que l'on croise quelqu'un, mais sans vraiment se préoccuper de la réponse, normalement. Bonjour, ça va ? Dit-on à longueur de journée. Le matin, quand on arrive sur son lieu de travail, un collègue, bonjour, ça va ? Mais souvent, on ne s'arrête pas. Dans la rue, une connaissance, bonjour, ça va ? Et le soir, si jamais on reçoit des voisins à dîner, le ça va remplace même le salut ou le bonsoir. Et lorsque je dis que l'on se préoccupe assez peu de la réponse, c'est qu'il va de soi que la réponse, c'est ça va, tout simplement. Au travail, dans la rue, comme avec ses voisins, l'usage est de dire ça va. Mais depuis une semaine, depuis les attentats qui ont frappé Paris, quelque chose a changé en France. D'ailleurs, tout a changé. Mais quand on croise quelqu'un et qu'on lui demande ça va, on attend la réponse. Et l'on est même disposé à entendre que non, ça ne va pas. Cette banale question semble avoir retrouvé du sens, ainsi qu'en témoigne la une de Libération ce matin, photo d'un rassemblement hier en hommage aux victimes des attentats, avec cette adresse au lecteur « Et vous ?» Ça va ? Au terme d'une des semaines les plus tragiques de son histoire, le quotidien propose une radioscopie d'un pays ébranlé, un pays fragile, mais un pays debout dans lequel s'expriment tout à la fois la peur et la colère, le deuil et l'espoir. Ça, c'est donc ce que nous annonce la une. Mais lorsqu'on parcourt le dossier, on se rend compte que c'est avant tout la peur qui domine aujourd'hui encore.
Oui, une peur perceptible dans toutes les villes où se sont rendus les reporters du journal.
À Villeneuve-d'Ascq, à Sète, à Marseille et à Lyon. Comme dans un village alsacien, les mêmes craintes, les mêmes mots. J'évite de me retrouver au milieu de la foule. Aujourd'hui, on n'est plus à l'abri nulle part. Peur d'aller faire ses courses et peur aussi de prendre les transports en commun. Peur d'avoir peur. Peur de baisser les bras. Peur, malgré l'envie de rester serein. C'est comme si l'on n'arrivait pas à se réveiller d'une mauvaise cuite, confie un jeune designer. Des mots de colère également, contre un gouvernement qui n'a pas réussi à empêcher les attentats. Des terroristes fichés mais pas arrêtés. Des mots de colère contre une Europe qui a choisi d'ouvrir ses frontières. Et toute la racaille est entrée, la France est devenue une poubelle. S'enflamme un jeune homme rencontré dans un bar de Wasselonne. C'est en Alsace, lorsqu'on gratte un peu, la xénophobie n'est pas loin. La peur des étrangers. Et c'est aussi ce que raconte Mélissa Bounois sur Slate. Depuis les attentats, la communauté musulmane est agressée partout en France. Certains confondant volontairement les djihadistes et tous les croyants en l'islam. Sale arabe, terroriste, puis des coups de feu devant un vendeur de kebab à Blaye en Gironde. Une mosquée devant laquelle on laisse du jambon et du lard, ainsi que cette inscription « La France aux Français » à Montarlier dans le Doubs. Des croix rouges dessinées sur la mosquée de Créteil. Un mort aux musulmans tagué sur la mairie d'Évreux. Tout ça alors qu'hier, les responsables musulmans lançaient précisément un appel au respect de tous, un appel à la fraternité, comme le titre Le Havre livre, sachant que, comme le souligne le Petit Bleu d'Agen, les musulmans craignent aujourd'hui l'amalgame, des craintes justifiées par les faits, mais également par les derniers propos tenus par les responsables du Front National. La famille Le Pen se lâche, souligne le Parisien. À deux semaines du premier tour des régionales, Jean-Marie Le Pen s'est déclaré hier en faveur du rétablissement de la peine de mort pour les terroristes, avec décapitation, comme le fait Daesh, a-t-il dit. De son côté, sa fille a estimé qu'il était devenu urgent de rapatrier les migrants, en clair expulser tous les demandeurs d'asile. Quant à sa petite fille, Marion Maréchal Le Pen, elle a assuré dans les colonnes du quotidien d'extrême droite Présent que les musulmans ne peuvent pas avoir exactement le même rang que la religion catholique, pas le même rang. Pourquoi ? Parce que, dit-elle, la France est une terre spirituellement chrétienne. Pour elle, les musulmans de France seraient donc des citoyens de second rang. Mais la peur s'explique également par les récents propos de Manuel Valls. À l'Assemblée, jeudi, devant les députés, il a évoqué le risque d'armes chimiques ou bactériologiques.
D'où ce titre du Monde, le Premier ministre dramatise encore plus sa communication.
Sachant qu'il a ensuite précisé qu'il n'avait pas d'indice particulier sur le sujet, mais que le groupe État islamique avait, dans le passé, utilisé des armes chimiques. Nous ne sommes donc pas à l'abri. N'empêche, chez les socialistes, quelques dents grincent devant le vocabulaire martial et inquiétant du chef du gouvernement. Valls ne sait être que dans le registre du matador, estime un député, tandis qu'un autre s'inquiète. Attention à ne pas aller trop loin dans le registre sécuritaire. On nourrit la bête. Mais on le sait, la bête a toujours faim. Quant à la menace d'armes chimiques, elle est réelle, mais elle reste très faible, explique un spécialiste du sujet. Menace très faible compte tenu des barrières techniques et logistiques pour détenir ces produits en grande quantité et pour les déplacer sur des milliers de kilomètres. Mais dans le même temps, le Parisien nous signale ce matin qu'un vol étrange vient de se dérouler à l'hôpital Necker à Paris. Différents équipements ont disparu cette semaine du local sécurisé où ils étaient entreposés. Une dizaine de combinaisons de protection étanches du type des kits de protection contre le virus Ebola, ainsi qu'une trentaine de paires de bottes en polyéthylène, une matière résistante aux agents chimiques, mais également des paires de gants et des masques antibactériens. Un tel vol intrigue dans le contexte actuel, commente le quotidien. Le maire de l'arrondissement estimant même que c'est forcément inquiétant. L'hôpital a fait savoir que les conditions de sécurité avaient été renforcées. Vol intriguant donc à Necker, mais sinon les cambriolages sont en chute libre depuis 8 jours.
Et c'est aussi l'une des conséquences étonnantes des attentats.
C'est l'effet de sidération. Explique-t-on dans un commissariat d'un quartier pourtant difficile de la banlieue parisienne, qui rappelle qu'un même phénomène avait été constaté après les attentats de janvier. Même les délinquants semblent donc perturbés aujourd'hui. Et les cités qu'on dit sensibles seraient en ce moment particulièrement calmes. Effet de sidération. L'expression vaut d'ailleurs pour tous, en premier lieu en Ile-de-France, toujours en état de choc, titre à sa une aujourd'hui le Parisien, des grands magasins délaissés à Paris. Les habitants n'ont vraiment pas la tête aux courses de Noël. Une fréquentation en baisse aussi dans les musées, les salles de cinéma et les salles de spectacle. Des transports en commun boudés, les Franciliens se sentent plus en sécurité dans leurs véhicules personnels ou bien dans les taxis. Et les voitures avec chauffeur qui, elles, ces derniers jours, ont eu beaucoup de clients. Résultat, beaucoup d'embouteillages également en région parisienne. Beaucoup de clients également pour les anxiolytiques et pour les somnifères. Certaines pharmacies parisiennes seraient dévalisées. Dans le journal, vous lirez aussi que certains magasins de jouets ont décidé de supprimer de leurs rayons toutes les armes factices, excepté les pistolets à eau. Et puis vous lirez que la Nation s'apprête à adopter les orphelins des attentats. Il s'appelle Louis, 5 ans. Lui est sorti par miracle, vivant, de l'enfer du Bataclan, mais pas sa maman, Elsa. Il y a Apolline, 3 ans, dont le papa Cédric est aussi décédé dans la salle de concert, mais également Iris, Mila et Tom, Mélissa, Hector, Gary, Melville. Désormais, tous vont devoir grandir sans l'aide et l'affection d'un de leurs parents. Ils sont les victimes invisibles des attentats du 13 novembre. Ce jour-là, tous se sont retrouvés brutalement orphelins de père ou de mère. Ils pourront donc tous prétendre désormais être adoptés par la nation en demandant à bénéficier de la protection de l'État. Notre devoir est aujourd'hui de les accompagner. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour cela, assure-t-on dans l'entourage du secrétaire d'État aux anciens combattants. Cette année, ce sont 33 adoptions qui ont été prononcées avec 130 décès recensés. Ce sera malheureusement beaucoup plus l'an prochain, révèle-t-on au ministère. Parmi les adoptés de 2015, certains sont des enfants des journalistes de Charlie Hebdo ou des victimes de l'hypercacher, porte de Vincennes. Mais 3 familles liées à l'hebdomadaire satirique, touchées par le drame, ont décliné la proposition. Ce statut peut faire un peu peur. Reconnaît-on pourtant, contrairement à celui de pupille de l'État, il n'enlève aucun droit. C'est même tout le contraire. Les familles conservent pleinement l'autorité parentale. L'enfant a droit chaque année à 400 euros d'étrenne, un virement de 1500 euros pour ses 18 ans, l'inscription gratuite à l'université. On l'aide ensuite à acquérir sa première voiture et l'État se porte caution pour son premier logement. On l'aide éventuellement à partir en programme Erasmus ensuite et quand il est enfant, sa famille reçoit une aide dans sa vie quotidienne en fonction du quotient familial. Si ce statut provoque aussi des réticences, c'est qu'il peut parfois être pour l'enfant un fardeau à porter moralement, inscrit systématiquement en marge de son extrait de naissance. Il est la marque indélébile de la tragédie vécue. C'est Aline Gérard qui signe le papier dans Le Parisien.
Et puis la tragédie a touché également le Mali hier.
27 morts dans une prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Elle a duré 9 heures et elle s'est terminée grâce à l'intervention conjointe des forces maliennes et étrangères, notamment françaises, une semaine après Paris. Bamako, victime du terrorisme, titre l'Est éclair. Les islamistes frappent le Mali, confirme Nice ce matin, ce qu'il donne dans le Télégramme. La terreur sans frontières. Alors que faire ? Pour chasser de son esprit la terreur, que faire pour chasser la peur? Il faut sortir et rire, nous conseille la Charente Libre qui invite ses lecteurs à se rendre au festival Fou d'Humour de Soyaux. Maintenant, il faut vivre, répond de son côté la Provence. Photo de personnes enlacées, c'était l'opération Sourire et câlin gratuit, place de la République, hier soir à Paris, debout, lance la Dépêche du Midi, debout, face à la barbarie, précise Ouest-France, tandis que Paris-Normandie estime que c'était hier l'heure du sursaut, l'heure des câlins. l'heure de la paix pour quelques heures, et puis dans le Figaro, Bertrand de Saint-Vincent, lui, nous propose deux solutions pour faire passer la peur. Tout d'abord, lire ou relire. Paris est une fête. D'Ernest Hemingway, le bouquin en ce moment cartonne en librairie. Ou alors, aller voir Salgavo à Paris, la vie parisienne.
Des amants, des maîtresses qui s'aiment en riant, des serments, des promesses qu'on porte à le vent, des chansons qui babillent, des baisers pris et rendus, des flacons qui pétillent en avant les grands crus.
Ça va, Patricia ?
Ouais, ça va. Et vous ? Ça va ?
Ça va bien.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.